Point numéro 6, rapport sur l'activité de la SAEML-UEM. Alors, c'est Madame Cossic qui fait le rapport.
Oui, alors, merci, Monsieur le maire. Donc, ce point repasse dans la mesure où, effectivement, lors du dernier conseil municipal, lors de la délibération, le seul vote auquel nous avons procédé était le vote de la motion. Et pour le coup, nous n'avons pas voté les rapports. Et donc, pour des raisons de conformité, ce soir, nous passons donc les rapports. Donc, Monsieur Lekadir sort, c'est très bien. Conformément donc aux dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales, les organes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires, sociétés d'économie mixte ou sociétés publiques locales, se prononcent donc sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an. Les rapports donc présentés par les représentants désignés par la ville au sein des CEML de l'UEM, Metz Technopole, ainsi que des SPL, Metz Métropole, Moselle Congrès et SAREM, sur l'activité et la gestion de ces sociétés pour l'exercice 2015, sont joints en annexe et donc sont soumis à adoption.
Voilà, alors, ce point a déjà été débattu la dernière fois, hein. Donc je vous suggère de ne pas recommencer le débat. La présentation, simplement, c'est que, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas eu de vote. Hein? Alors, non, mais on va revenir, Monsieur Cazin, je vous rassure, on va revenir sur votre demande par rapport au... Mais il n'y a pas eu de vote sur le constat qu'on avait sur les rapports.
Mais monsieur...
Attendez, alors, c'est celui-là que d'abord je voudrais régler. On parlera après des jetons de présence, tant que vous voulez.
Non, mais sauf que sur la motion, vous ne devez pas être là. Hein. Vous êtes directement intéressé sur... attendez, moi je demande un avis juridique, parce que cette motion concerne les jetons de présence où vous êtes directement intéressé, et il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Vous devez immédiatement quitter la séance, sinon elle est nulle.
On va faire deux votes. On va faire un vote sur les rapports.
Ah bah, il y a deux débats séparés.
Ah ben on va faire deux débats séparés.
Ah ben alors,
mais je pense que
c'est sur le premier débat que j'ai demandé la parole, pas sur le deuxième.
Pas
sur les jetons de présence.
J'ai noté, Monsieur Cazin, vous allez avoir la parole. Mais je voudrais simplement dire que ce débat, il a déjà eu lieu. J'étais là d'ailleurs, parce que c'est tout à fait normal.
Ah non, vous étiez pas.
Et après ça, il y aura un débat en dehors de la présence des membres qui sont administrateurs dans les différentes sociétés dans laquelle la ville est représentée. Et à ce moment-là, on demandera aux personnes concernées de sortir. Alors, Monsieur Cazin, vous avez la parole sur les rapports. Je rappelle qu'on a déjà débattu sur ces rapports. Hein.
Oui,
il s'agit du rapport de...
Comme on ne votait pas, je ne prends la parole que quand on vote, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, concernant l'UEM, le maire de Metz, ou la mairie de Metz plutôt, qui est principal actionnaire, ne se conduit pas comme un actionnaire qui serait soucieux du développement de l'entreprise à moyen long terme, mais comme un actionnaire siphonnant complètement les bénéfices de l'entreprise. Ceci menace sans doute à court et à moyen terme la capacité à investir de l'entreprise. Les sommes prélevées sur les bénéfices depuis 2011, je ne dispose pas des données antérieures, sont de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. L'ordre de grandeur, c'est donc le Palais des Congrès, 60 millions d'euros pour mémoire. On imagine très bien ce qui aurait pu être financé avec ces sommes colossales en termes de recherche, de production d'énergie propre, de mode de déplacement alternatif, d'économie d'énergie. Il s'agit quand même d'une entreprise vouée à l'énergie. Les dividendes annuels ont encore été augmentés de 45% ces deux dernières années. Sans cette ponction supplémentaire, on en est à 12,3 millions d'euros par an pour la mairie, 2 millions pour la CDC. La quasi-totalité des bénéfices part en dividendes. Donc, ce n'était pas seulement l'investissement qui était menacé dans le budget de la ville de Metz, c'est le budget de fonctionnement qui ne pouvait pas être bouclé. Et en termes budgétaires, c'est très préoccupant.
Voilà. Merci. Alors, ce débat... Ah oui, allez-y, puisque maintenant que j'ai de la parole...
Mais oui, parce que je reviens et je souscris à ce qui est dit par M. Cazin, parce que à chaque fois, je repose la même question. C'est la question du dividende et des perspectives de dividende de l'UEM. Puisque l'ex-adjoint au développement économique, parce qu'on a perdu la compétence, donc le futur ex, parce que jusqu'au 31 décembre, il est encore là, donc nous avait expliqué la règle de distribution de dividendes avec les associés qui étaient de verser 70% du résultat consolidé. Or, dans le résultat consolidé, on voit bien qu'il y a eu un effet d'aubaine avec la vente ou l'entrée en capital de EDF, Et il y a eu 30 millions, 35 millions d'euros, ce qui a permis d'avoir un résultat exceptionnel. Et comme on lisse sur 3 ans, c'est ce qui permet d'aujourd'hui de verser 14,5 millions d'euros. Mais par rapport aux résultats normatifs, on distribue beaucoup trop. Et pourquoi on distribue beaucoup trop ? Parce que vous gérez mal la ville de Metz. Et au-delà de la dette qui s'envole, on empiète la capacité de développement de l'UEM pour demain. C'est-à-dire que votre prédécesseur, je sais bien que ça vous fait mal de dire, d'entendre ça, votre prédécesseur, vous pouvez vous gargariser, « Oh, iFluid », mais vous n'êtes pour rien sur iFluid. Rien. C'est, le logiciel a été fait par du temps de votre prédécesseur. Vous avez un effet d'aubaine extraordinaire de que ce logiciel ait intéressé EDF pour pouvoir le développer. Et aujourd'hui, de cette politique de distribution de dividendes qui est largement trop importante, je pense réellement que ça empiète durablement la capacité d'investissement. Et ne me parlez pas des fonds propres, parce que les fonds propres de l'UEM servent, il y a des règles de gestion de risque, etc., etc., et doivent servir à gérer les risques liés aux activités de l'UEM. Donc ne me faites pas me dire, attention, il y a suffisamment de fonds propres. Non, les fonds propres servent à gérer les risques de l'UEM. Voilà. Merci, monsieur le maire.
Je vais demander à monsieur Thierry Jean de répondre à ces deux interventions qui sont la même chose.
Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Oui, c'est un sujet qui est récurrent. Le fait que nous gérions en actionnaire siphonnant, c'est quelque chose, par contre, on n'avait pas encore entendu. Donc, du point de vue sémantique, on évolue un peu. Mais sur le fond, c'est toujours rigoureusement la même chose. Nous appauvrissons UEM. Alors, le mot prend les devants en disant, ne me parlez pas des fonds propres. Ma fille, si, j'ai quand même pas d'autres indicateurs que les fonds propres ou les capitaux permanents de l'entreprise. Et les fonds propres, ils augmentent. En 2013, ils étaient de 229 millions. Et en 2015, ils sont de 240 millions. Certes, nous distribuons une partie des résultats. Nous sommes... Et je l'ai dit souvent, nous nous sommes mis d'accord avec notre associé qui est la Caisse de dépôt pour dire que nous plafonnons les distributions à 70% de la moyenne des résultats consolidés des 3 derniers exercices. Alors, on aurait bénéficié d'un effet d'aubaine. Alors, ça, c'est totalement faux. Puis, c'est pas gentil pour les gens qui travaillent parce que la valeur, elle a été créée par des gens. C'est pas un effet d'aubaine. Si ERDF a accepté de valoriser à 90 millions d'euros un logiciel qui était immobilisé pour 8 et quelques, c'est que il y a eu de la valeur ajoutée produite par des gens, ce n'est pas une aubaine. Cette valeur ajoutée, elle se traduit en partie par des produits de cession qui sont au compte et par ailleurs par un dividende précipitaire, c'est-à-dire que UEM, actionnaire majoritaire de iFluid, perçoit plus de dividendes que les autres proportionnellement, parce que ça a été dealé ainsi lorsque les actions ont été cédées. Alors, cela dit, ça a fortement impacté le résultat de l'ensemble, puisque le résultat consolidé de 2013, il était de 41 millions. Et sur ces 41 millions, on a distribué 14 millions. Alors, on ne siphonne rien, ou alors c'est une conception particulière du siphon. Le résultat net hors cet élément-là, c'est-à-dire si je prends 2014 et 2015, 2014 c'était 19,4 millions, 2015 c'était 20,6 millions, 2016 ce sera significativement plus, mais on... Si... 70% de 20 millions, ça doit faire pas loin de 14 millions. Oui, mais si on prend la moyenne... des 3 derniers, donc c'est... Si on prend 20 plus 19 plus 40 divisé par 3, ça fait largement plus de 20, donc 70% de ça, ça passe. Cette année, le résultat permettra encore, et je ne le communique pas parce que c'est prématuré, mais il permettra encore sur la base de la même règle, c'est-à-dire en éliminant 2013, c'est-à-dire en éliminant les 40 millions, pardon, mais en prenant 2014, 2015, 2016, en faisant le total, en divisant par 3, on sera supérieur à 20 millions, fois 70%, on sera de nouveau sur la base d'une distribution du même niveau. Voilà. Et il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement pour les années qui viennent. Le résultat 2017, il n'y a aucune raison qui soit en baisse par rapport à 2016. Donc tout va dans le même sens. On n'est pas un actionnaire siphonnant. Les risques de l'entreprise, ils sont largement provisionnés. Qu'il s'agisse des droits, ce qu'on appelle les droits des concédants, c'est-à-dire les droits des communes. Il figure quand même au bilan à hauteur de 217 millions, en plus des 240 millions de fonds propres. Tout va bien dans cette entreprise. Il n'y a là-dessus aucun souci. Et c'est une entreprise qui est bien gérée. Il y a quelques jours, Guillaume Pepy était intervenu devant les élèves d'HEC et il disait que c'était pas évident. Il parlait de l'État, bien sûr, parce que lui, son actionnaire, c'est l'État. Et il disait que c'était pas évident pour une puissance publique de s'impliquer comme actionnaire de long terme. Et ben, je crois que c'est ce que nous faisons. Contrairement à tout ce qui peut être dit, la ville de Metz se comporte comme un actionnaire de long terme, la caisse de dépôt aussi, puisque la caisse de dépôt, c'est la définition même, c'est l'essence même de l'actionnaire de long terme. Et non seulement cette entreprise est performante, mais en plus, nous lui donnons tous les ans les moyens de conforter son développement. Et vous savez, quand la question qui se pose, quand on inaugure, monsieur le maire, vous avez inauguré il y a quelques jours un siège social, puis quand on discute avec les cadres de la maison et qu'on nous dit oui, on se demandait est-ce qu'il fallait emprunter, pas emprunter, mais on s'est dit qu'avec le niveau des taux, moi je ne connais pas beaucoup d'entreprises, quelles qu'elles soient, qui quand elles construisent un immeuble se demandent si elles vont emprunter ou pas. Cette entreprise-là, elle est parfaitement saine, elle a une structure financière remarquable, elle a un savoir-faire qui est salué dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier, parce que ça ne se limite pas à ERDF. Les énergéticiens se parlent. Et c'est tout ça, effectivement, c'est le patrimoine commun, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire. Et franchement, les critiques qui viennent d'être formulées sont dénuées de fondement. Voilà, j'espère avoir été clair.
Merci. Alors, je vous propose, avant de sortir, avant que les administrateurs sortent pour débattre du sujet des jetons de présence, qu'on prenne acte des rapports qui ont été faits sur...
Alors,
on les vote. Alors, il faut voter. Qui est contre ces rapports ?
Je voudrais 4 votes.
Alors, qui est contre ces rapports ?
Je veux 4 votes, un par rapport.
Un par rapport.
Un par rapport.
Alors, un par rapport. Alors, qui est contre le rapport sur l'UM ? Un contre. Qui est contre le rapport sur Metz Technopôle ? 1, 2, 3, 4. Ah, voilà, vous avez vu, monsieur Gourlot, il faut faire attention de l'autre côté, là. Qui est contre le rapport sur Metz Métropole Moselle Congrès ? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et qui est contre le rapport sur la SAREM ? 1, 2, 3, 4. Et une abstention.
Abstention aussi.
2 abstentions sur la SAREM. Voilà. Merci. Et donc maintenant. Alors, est-ce que je fais une soirée ? Ils sont arrivés ? Bon, alors maintenant, je vais passer la présidence. Ah, tu veux pas, tu t'en vas. À Isabelle Kosik, pour le débat, oui, tu vas sortir comme moi, sur le débat sur les jetons de présence. Voilà. Et donc, il y a la liste des gens qui doivent sortir.
Sortent donc Dominique Gros, Richard Vieuger, René Darbois, Belkir Belada, Thierry Jean, Daniel Planchette, Marie-Anne Isler-Béguin, Gilbert Krosner, Pierre Gandard. Et Selima Saadi, mais elle n'est pas là.
Ouais.
Gilbert.
Bah attends, d'abord, j'ai mon truc. Je ne sais pas. Peut-on vérifier le quorum ?
Madame la Présidente, s'il vous plaît, une question. Les administrateurs nommés par Metz Métropole dans ces instances doivent-ils sortir ?
Non.
Merci.
Vous n'êtes pas sur la liste, d'ailleurs. C'est ma position. Alors. Donc, on m'annonce qu'on a le quorum. Je vais vous lire donc la délibération telle qu'elle a été issue du débat que nous avons eu lors du dernier conseil municipal. Par ailleurs, il est proposé que les élus de la ville de Metz, désignés pour siéger dans les sociétés d'économie mixte ou dans les sociétés publiques locales, ne perçoivent pas de jetons de présence à l'occasion de la tenue des conseils d'administration. En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du conseil municipal. Bien. Donc, je mets aux voix. Qui est contre ? Alors, Madame Grollet, 3 minutes. Monsieur Aldrin, 3 minutes.
Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais simplement rappeler pourquoi nous sommes contraints de repasser ce point 2 mois après l'avoir déjà constaté en conseil municipal. Pour 2 raisons. La première, nous la devons à notre collègue Cazin qui avait détecté un oubli justifiait de préciser des éléments concernant les jetons de présence dans la motion. La seconde raison tient au fait que notre groupe avait déposé un amendement pour demander la suppression des jetons de présence pour les élus de la ville. Après une opération que l'on peut facilement qualifier de politicienne, de la part de la majorité, pour tenter de récupérer à son profit cet amendement, s'en est suivi donc un débat kafkaïen qui a duré près 1 heure et qui aboutit à ce que vous omettez, Madame la Présidente, une partie du vote sur cette motion. Donc, je souhaite simplement rappeler que, à l'initiative de notre groupe, et je remercie tous ceux qui ont suivi et contribué à ce que cet amendement soit adopté, nous avons souhaité et émis le souhait que les élus ne touchent plus de jetons de présence pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Elles avaient été expliquées il y a 2 mois. Simplement, lorsqu'on est élu, on a une indemnité. Je crois que cela contribue à une action. Et par ailleurs, je souhaiterais aussi reformuler une proposition que j'avais faite à l'occasion du débat sur la parité. Il serait bien que la ville désigne aussi des administrateurs paritaires au sein de l'UEM, puisque nous avons 6 hommes désignés, et que par conséquent nous édictions des principes, pas de jetons de présence pour les élus de la ville dans les sociétés économiques, et si possible, tendre vers la parité lorsque ceci est possible. Merci.
Merci Monsieur Aldrin. Madame Collin-Osterlet.
Oui, Madame la Présidente, je voudrais... Bon, évidemment, je ne reprendrai pas ce qui vient d'être dit par Jérémy Aldrin. En revanche, j'avais demandé à ce que la même règle soit appliquée pour les administrateurs de Metz Habitat Territoire, qui sont également élus, notamment. Et donc, je souhaiterais que la même règle soit appliquée et qu'il n'y ait plus d'indemnité qui soit versée. Alors, vous m'aviez répondu que c'était une décision du conseil d'administration. Eh bien, je souhaite que, effectivement, cette règle soit également appliquée. Il n'y a absolument aucune raison que le traitement soit différent au sein de Metz Habitat Territoire que dans une autre commission. Nous ne percevons pas des indemnités ou des jetons de présence pour notre présence en commission. Et ça me semble donc, la même règle me semble devoir être appliquée. Par ailleurs, lorsque vous évoquiez d'autres organismes, et Yves Van Ning qui siège pourra vous le confirmer, d'autres organismes où ce type de règle serait soi-disant appliquée, eh bien non, ça n'est pas le cas. Donc moi, je souhaite que la même règle soit appliquée à Metz Habitat Territoire. C'était Mosellis, évidemment, puisque vous aviez évoqué Mosellis en disant que là, on percevait également des indemnités de présence, ça n'est pas le cas.
Merci, madame. Madame Nicolas. Monsieur Van Ning.
Oui, moi je trouve que cette histoire, effectivement, qui dure maintenant depuis 2 mois, commence à être un petit peu récurrente et ridicule. On est encore une fois obligé de revoter sur ce point. La dernière fois, ça a donné lieu à un véritable capharnaüm ici, avec un amendement qui avait été déposé avant, mais finalement on s'est rendu compte qu'il avait été déposé après. Il continue à parler, je crois. Donc, effectivement, cette situation n'a que trop duré. Là, Nathalie Collin-Storey vient de soulever le problème de Metz Habitat Territoire, ce qui veut dire qu'on va être obligé de revoter dans 1 mois dans les mêmes conditions pour Metz Habitat Territoire. Une fois pour toutes, il faut sortir de cette histoire. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne prend pas le bon chemin. Je n'ai pas bien compris pourquoi on doit aujourd'hui revoter alors qu'on a voté il y a 2 mois. Et ça, Madame Cossé, vous auriez pu nous l'expliquer quand même en préambule, savoir pourquoi vous nous faisiez revoter aujourd'hui alors qu'il y a 2 mois, on a voté un amendement dans des conditions extrêmement douloureuses. J'attends l'explication. Et sur Metz Habitat Territoire, c'est vrai qu'il faut aussi clarifier les choses. Est-ce qu'effectivement, à Metz Habitat Territoire, on n'aura pas le droit de voter jetons de présence? Parce que si on doit revoter à ce moment-là, reportons tout et puis votons une fois que tout est au point. Ce n'est pas la peine de revenir tous les mois avec le même point. Merci.
Merci, Monsieur Wendling. Monsieur Lebeau.
Madame la Présidente, chers collègues, sur cette motion, j'ai une philosophie que, propre, hein, je veux dire que, mais je la garde pour moi, parce qu'elle n'est pas partagée par mon groupe. Mais personnellement, je pense que ça ne me dérange pas que des personnes touchent des indemnités et des jetons de présence, mais ça, c'est personnel. Deux éléments où je suis, m'embête énormément. Premier élément, c'est que je ne vois pas pourquoi l'organisme ne verserait pas ses jetons à la ville de Metz. La ville de Metz a des difficultés financières, ce qu'on a entendu, donc elle devrait les percevoir. Dans le privé, je vous donne ce que je connais bien, les administrateurs qui siègent pour le compte de la société renversent leurs jetons de présence à la société. Donc, on pourrait comprendre qu'il n'y ait pas deux types d'administrateurs, des administrateurs qui touchent et d'autres qui ne touchent pas de jetons. Autant que ça aille à la ville de Metz. Ça fera au moins une petite recette. Deuxième élément, visiblement, nous n'étions pas dans les clous avant, puisque c'est la première fois qu'on apprend, qu'on découvre qu'il y avait des personnes qui percevaient des jetons de présence. Donc, il y a un problème total de transparence. C'est ça le pire. C'est pas qu'ils touchent. Ça a été caché, masqué. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, comme la situation est en pleine irrégularité sur le passé, qu'on pourrait même dire que c'est une prise illégale d'intérêt, comment régularise-t-on le passé? Donc, il y a eu un amendement qui avait été déposé pour demander que le passé, que les personnes qui ont perçu les jetons de présence les reverse. Et le troisième élément, c'est votre situation personnelle, madame. Parce que vous avez été porteur d'un amendement où vous nous avez dit que l'amendement était arrivé avant. Et on a réécouté toutes les bandes, et à la fin, vous avez dit non, il est arrivé après. Donc, il y a eu une contre-vérité pour dire un minima. Un minima, une contre-vérité pour ne pas dire un mensonge. Donc, je voudrais à minima que vous excusiez devant l'Assemblée pour ce contre-pied, parce que sinon, au-delà de la situation ubuesque dans laquelle on était avant pour les personnes qui ont perçu ces jetons, on est sur un faux et usage de faux. Donc moi, voilà, si on s'excuse et on fait, l'erreur est humaine, j'en fais tous les jours, et moi je sais m'excuser. Voilà, je vous remercie madame.
Merci beaucoup. Monsieur Cambianica.
Merci, Madame Kosik. Alors, les jetons n'étaient pas cachés, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Lebeau. Même moi, j'étais au courant, et pourtant, vous savez que les finances, je n'y comprends rien. Mais, comme lui, je pense que les jetons pourraient être perçus par la collectivité dont nous dépendons. Je voulais aller plus loin. L'action qui est engagée par la ville pour UEM, ainsi que conjointement avec l'agglomération pour ce qui concerne la SAREM ou la SPL M3 Congrès, sont un minima très satisfaisant pour le premier et encourageant et prometteur pour les seconds. Mais l'économie est une bête difficile à maîtriser et nul ne peut se garantir d'un retournement de situation ou d'une concurrence agressive et ou nouvelle. Il appartient donc à la collectivité de consolider ses acquis et d'investir sur de nouveaux gisements de croissance. La concentration future de toutes les initiatives de développement économique et touristique va dans le bon sens, mais cela ne doit pas alourdir notre capacité d'adaptation aux aléas de la conjoncture. Nous devons donc continuer de développer les leviers de croissance et ne pas se reposer financièrement que sur UEM et sa filiale e-fluide. N'en déplaise aux timides, aux frileux et aux rentiers, D'autres pistes, d'autres synergies sont à rechercher. L'écosystème TSRM Blida est un de ceux-là, mais pas le seul, qui doit faire l'objet de toutes nos attentions. Le numérique est dans ce cadre un creuset qu'il faudrait investir de façon encore plus volontaire. Je vous remercie.
Merci. Alors, en ce qui concerne la question du pourquoi nous revotons, puisque vous avez... vous n'étiez pas inscrit, madame. Bah, écoutez, vous prendrez la parole quand vous expliquerez votre vote. Merci. Si vous avez entendu les bandes, hein, vous avez pu effectivement entendre que seul l'amendement a été adopté, alors que nous aurions dû voter la globalité de la délibération. C'est ce que nous faisons ce soir. Et je mets donc la délibération aux voix. Qui vote contre ?
Explication
de vote, madame Osterby.
Madame Kosik, vous êtes présidente de Metz Habitat Territoire. Ça fait deux fois en deux mois que je vous pose la question. J'aimerais avoir un retour de votre part sur ces indemnités de présence qui sont versées aux administrateurs de Metz Habitat Territoire, qui sont par ailleurs élus. Donc ça fait deux fois que je vous pose la question. Vous êtes présidente de cette institution qui est Metz Habitat Territoire. Donc je voudrais vous entendre par rapport à cela. Parce que vous êtes quand même directement concerné. Vous avez la possibilité de revenir là-dessus. Donc pouvez-vous nous informer sur, sur la décision que vous prendrez par rapport à cela ?
Madame Colas-Osterlé, nous ne sommes pas au conseil d'administration de Metz Habitat Territoire. Donc, nous respectons la libre administration de chacune des collectivités. Par conséquent, vous aurez un courrier écrit et signé par la prochaine ou le prochain président de Metz Habitat Territoire en janvier, lorsque la nouvelle gouvernance sera installée. Et je vous donnerai l'ensemble à ce moment-là, en tout cas si c'était moi qui étais élu, du contenu des décrets de 2008 que vous devriez connaître, et de la façon dont les choses s'organisent. Votre vote, madame Colin-Osterlé ? Ah bah écoutez, vous,
explication
votre vote.
De vote.
Pardon ?
Explication de vote aussi.
C'est une explication de vote.
Vous ne vous inquiétez pas, je vais expliquer mon vote. Simplement, je regrette que vous n'ayez pas la grandeur de vous excuser pour le faux et l'usage de faux. Ça, c'est le premier élément. Je trouve que des fois, quand on fait mal, il faut savoir battre sa coulpe. Et on est plus grand. Oui, si vous voulez. Oui, bien sûr. Oui, mais globalement, je ne la ramènerai pas ce soir. Voilà, j'étais vous. Mais ça, c'est affaire de personne. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, je vous ai posé une question qui est assez grave.
Je demande, s'il vous plaît, que vous donniez votre vote, puisque je vais redonner...
Non, mais bien sûr, j'ai 3 minutes. J'ai 3 minutes, on est à 2 minutes 28. Ça, c'est le règlement intérieur. Madame, je sais que vous avez du mal à le maîtriser, le règlement intérieur, mais vous voyez, un chronomètre juste devant vous. Donc, j'ai 2 minutes 21 pour dire tout ce que je veux. Donc, aujourd'hui, ce que je regrette profondément, madame, c'est que, un, vous n'ayez pas répondu sur la situation du passé, qui est totalement illégale, qui est une prise illégale d'intérêt. Vous, visiblement, si les informations pourraient être corroborées par votre prise de position, vous êtes aussi dans une prise illégale d'intérêt. Parce que vous, si Metz Territoire Habitat vous a versé, vu que nous n'en avons pas voté, vous êtes dans une situation, c'est du pénal. Je dis juste ça. Donc à un moment donné, si on pouvait juste être plus cool, si on pouvait juste être plus cool et dire les choses en transparence et évacuer les problèmes, on serait vraiment mieux. Donc j'attends que vous nous répondiez sur les deux éléments et la proposition que j'ai faite, qui était de dire, et que M. Cambianica a repris, de dire est-ce que les administrateurs pourraient reverser à la commune à l'avenir. C'est-à-dire, c'est dommage de se priver. C'est-à-dire, sinon, je fais un amendement oral où j'ai le droit et de l'inclure dedans. Si on ne peut pas dialoguer et construire une solution durable et pérenne ensemble, c'est dommage. C'est ce que je souhaite, je ne sais pas vous embêter.
Et donc vous votez quoi ?
Madame, je vais demander une suspension de son séance. Je vais demander à ma présidente. Je vais demander à ma présidente une suspension. Je vais demander à ma présidente. Voilà, madame la présidente. Voilà.
Vous la demandez, madame la présidente. Donc vous demandez, madame la présidente, une suspension de séance. Très bien. Peut-être avant de la faire, M. Cazin.
Oui, explication de vote. Donc, je ne voterai pas cette délibération. Je m'abstiendrai. J'ai demandé plusieurs fois les modalités de remboursement de certaines indemnités qui, évidemment, ont été touchées indûment. Celle sur l'UM, c'est clair. Tout le monde le reconnaît, tout le monde le sait. J'ai eu des réponses dilatoires ou pas de réponse. Des réponses qui, peut-être, étaient carrées en droit public. Effectivement, j'ai entendu la dernière fois la réponse qu'on m'a faite. Ça peut nous emmener à 5 ans de recours. On aura un jour la définition du Conseil d'État pour savoir ce que c'est qu'un maximum. À mon avis, on a dépassé ce stade-là. Ce n'est plus un problème de droit public. Donc, on verra.
Et donc, vous abstenez. Allez-y, madame.
Voilà. Juste une remarque. C'est que une question aussi. Hein. Sous statut associatif, donc on a constaté qu'à l'Office du tourisme, il y avait aussi quelque chose qui était attribué au président. Alors que l'Office du tourisme de Metz était sous statut associatif.
Je demande
alors, petite chose aussi à voir, puisqu'il y a un certain nombre d'associations, a priori, qui ont aussi directement un lien avec le conseil municipal, la majorité, à vérifier aussi certains présidents d'associations qui recevraient des rémunérations. Je vous remercie.
Dans le PV. Non, je veux dire, c'est à côté. Et je veux dire, ça doit être notifié, ça doit être absolument notifié dans le procès verbal que les personnes étaient présentes.
Donc, votre demande de suspension de séance, allez-y, Madame la Présidente. Allez-y. Ah oui.
Merci pour ceux qui sont présents. Le point numéro 16 est reporté à un conseil ultérieur. Et nous voilà au point numéro 7, Association Quatropole, subvention et convention d'objectifs et de moyens. Rapporteur Duan Tran.
On pourrait savoir pourquoi le point est reporté.
Eh bien, parce qu'on n'a pas le quorum pour le point en question. Donc on ne peut pas débattre. Voilà, il n'y a pas le quorum sans nous, donc le point est reporté.